Je remercie Toby pour cette présidence et je remercie aussi l'Église pour ces paroles que nous avons partagées ensemble. Égoïstement, il me parle. Vous voyez ? Et à chaque fois que nous partageons la parole de Dieu ici, simplement, entre frères et sœurs, nous savons que le Seigneur nous parle au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. La parole de Dieu parle à chacun de nous d'une manière peut-être commune, mais aussi d'une manière différente. Nous pouvons lire le même passage dans la Bible. Il y a un bruit qui est un peu gênant. Oui. Je disais que nous pouvons lire la même parole, le même verset, il peut parler différemment les uns des autres, mais l'essentiel c'est que nous sommes dans une communion totale en Christ qui est l'Église. Il en est même la tête. Nous allons commencer par la prière d'abord. Seigneur Dieu, nous pouvons dire que tu nous as déjà nourris ce matin. Tu nous as déjà parlé, même si sur le moment nous ne comprenons pas. Mais ta parole est une nourriture pour notre être intérieur, celui que tu as créé pour cela, justement. Tu as créé cet être intérieur pour recevoir ta parole. Et c'est dans cette disposition que nous sommes encore maintenant devant toi. Et je te prie de l'aide de mettre de côté tout ce qui peut venir de l'être humain, en l'occurrence de l'orateur, afin que tu puisses parler à notre cœur, à ta manière et à ta manière seule. Car tout vient de toi, par toi et pour toi, et toi seul, tu peux parler au cœur de chacun. Amen. Le message d'aujourd'hui est la continuité de ce que nous avons déjà partagé il y a de cela quelques semaines. Il y a quelques semaines, nous avons commencé notre partage, notre communion autour d'un titre, En Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En fait, on doit nous en rappeler puisque En Christ est tous les jours. Nous sommes en Christ. Un chrétien est quelqu'un qui est en Christ. Plus qu'avec Christ. J'insiste là-dessus. Souvent, on a tendance à dire, je suis chrétien, Jésus est avec moi. Oui, mais plus que ça encore. Il est en nous, dedans. Il n'est pas seulement en face de moi, je suis en train de le côtoyer. Non, il est en moi. Comment il est en moi? Comment il est en vous? Par son Esprit Saint. Christ, nous ne le connaissons pas historiquement. Ça y est, c'est fini. Le Jésus-Christ, il y a plus de 2000 ans, que les historiens pourraient faire des livres et des livres. C'est fini. Ce Christ-là, il est monté au ciel. Il est à la droite du Père. Il est en train de régner. Vous voyez? Et c'est ce Christ que nous connaissons aujourd'hui, par l'Esprit Saint qui habite en nous depuis le jour que nous avons ouvert notre cœur, on a dit « Seigneur, viens habiter en moi ». Par cet acte de foi, qui ne dépend pas de mon intelligence. Je peux avoir Bac plus 25, comme je ne vois pas pour avoir Bac moins 50. Ça n'a rien à voir. C'est une attitude de cœur. Le cœur, quand nous acceptons Jésus, c'est la meilleure chose qui peut arriver au monde. Rappelons-nous de ces chrétiens d'il y a plus de 2000 ans, c'est ce qu'on appelle l'Église primitive, les premiers chrétiens étaient tous des ingénieurs? Pas du tout, je dirais même le contraire. Parce que la lecture de la Bible n'était pas donnée à tout le monde d'ailleurs à cette époque-là. Et on venait leur enseigner. Mais seulement quand ils ont entendu la bonne nouvelle, ils n'ont pas cherché à faire de la théologie, à faire de la science. Ils l'ont accueilli simplement dans leur cœur. Et dès qu'il est rentré, la vie éternelle est rentrée en eux et la vie éternelle a commencé. La vie éternelle ne commence pas quand on aura quitté ce corps. Ça, c'est la délivrance finale. L'éternité commence ici, bas, quand nous ouvrons notre cœur au Seigneur. C'est la bonne nouvelle. C'est cela, être chrétien, tout simplement. Je n'ai pas besoin de faire une université théologique, faire une étude biblique tous les soirs, pas du tout. recevoir simplement Christ dans son cœur et la vie éternelle commence. C'est ce qu'on appelle, la Bible appelle la nouvelle naissance. Dès que nous rentrons dans cette communion avec Dieu, dès que nous acceptons le Seigneur dans son cœur, Dieu commence le travail. C'est le début. Quand le Seigneur touche notre cœur, il nous a déjà préparé avant. Ça rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure. On a souvent tendance, quand on regarde ceux qui nous entourent, et porter des jugements sur ces gens-là. Pourquoi ils ne croient pas? Vous voyez, c'est ce que tu as dit, Jean-Louis. On commence même à dire, mais c'est pas normal que ces gens ne croient pas. Et en disant cela, nous oublions notre état, nous, comment nous étions avant. Le fait de porter un jugement sur l'autre, c'est quelque part, je porte un jugement sur moi. Parce qu'avant que le Seigneur touche mon cœur, j'étais comme ces personnes-là, peut-être même pire. Et d'un seul coup, quand on reçoit le Seigneur dans son cœur, ça y est, on n'est plus pareil, on se permet de porter des jugements sur les autres et dire, voilà, comment ça se fait qu'on ne reçoit pas la parole de Dieu? Ce que Dieu a fait dans notre cœur, il le fait dans les autres, chez les autres. Si Dieu était patient avec nous, s'il était tellement patient par amour avec nous, pourquoi il ne sera pas avec les autres? Pourquoi le Seigneur, quand il me touche, on dit, ah, c'est le temps de Dieu, mais quand je commence à parler aux autres, c'est le temps des hommes? Non. Tout ce que je peux faire, c'est prier pour les autres. Dieu seul peut faire l'œuvre dans leur cœur. Personne d'autre ne peut faire une œuvre dans l'homme si ce n'est Dieu lui-même. Si ce n'est pas le cas, c'est une œuvre des hommes. Et cette œuvre des hommes finira par périr. Donc il vaut mieux prier le Seigneur pour que les cœurs s'ouvrent. Et quand le Seigneur entre dans notre vie, alors comme je dis, il commence un travail. C'est comme ça avec le Seigneur. Quand il était sur terre, il était avec ses disciples. Il les enseignait durant 3 ans, son ministère à peu près. Depuis le début, depuis qu'il les a appelés, et remarquez quand il les a appelés, dans la Bible, quand il a appelé les 12 disciples, est-ce qu'à aucun moment vous avez vu dans la Bible un disciple qui lui dit « Attends, je réfléchis. » « Ah ben je ne sais pas. » Je vous défie de lire dans la parole de Dieu, à aucun moment que le Seigneur a appelé les disciples, il y a d'hésitation. Dès qu'il les a appelés, ils ont répondu à l'appel. Pourquoi? Parce que ça venait de Dieu. Ça venait du Seigneur. Il les a préparés avant, mais quand il les a dit « Suivez-moi », ils lâchaient tout et ils le suivaient. Mais de même, aujourd'hui, quand on parle du Seigneur, quand Dieu prépare les cœurs, et quand c'est le moment, et bien la personne qui reçoit la parole de Dieu ouvre son cœur et suit le Seigneur. Après, il les a enseignés durant 3 ans, avec des erreurs. Rappelez-vous, il les a même envoyés à un certain moment aller chasser les démons, etc. Et ils sont revenus et disent, oh, mais on n'arrive pas. C'est l'apprentissage. Rappelez-vous de Pierre aussi, quand il a dit au Seigneur, non, tu ne viendras pas sur la croix, je vais te défendre. Et c'est le premier qui l'a renié. Oui, ça c'est la faiblesse humaine. C'est l'apprentissage de Dieu. Jusqu'à qu'il a donné sa vie à la croix. Et quand il est monté au ciel, il a dit maintenant, vous ne serez pas orphelin, vous ne serez pas tout seul. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est descendu le jour de la Pentecôte que nous avons fêté. Il y a peu de temps. Le Saint-Esprit est descendu sur ses disciples. Jésus n'était plus avec eux, mais il était en eux, par l'Esprit Saint, en eux. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils commençaient à témoigner devant les gens. Ce n'était pas eux-mêmes qui témoignaient. C'est l'Esprit Saint à travers eux qui témoignait. En fait, c'est Jésus qui témoignait à travers les disciples. Vous voyez ? Rien n'est laissé à l'homme, à la nature humaine. Et d'un seul coup, on voit les fruits. Des milliers de personnes qui se convertissent. On commence à parler en plusieurs langues de la gloire de Dieu. Vous voyez? Quand Dieu est à l'origine, il y a des fruits. Quand c'est l'homme qui est à l'origine, c'est le désastre. Bien qu'on ait l'impression pendant un certain temps, il y a des fruits. Et bien cette œuvre de Dieu, quand Dieu est monté au ciel, l'enseignement ne change pas. Il continue à nous enseigner. Il continue à nous conduire par l'Esprit Saint. Et c'est pour ça le cheminement avec le Seigneur. C'est un retour, c'est une application de ce que le Seigneur a vécu lui-même. En fait, quand on devient chrétien, ce qu'il a accompli le Seigneur comme modèle, il nous fait passer de la même manière. Pas aller sur une croix pour être crucifié, ce n'est pas le cas. Mais le procédé, le principe est le même. C'est-à-dire, quand le Seigneur est mort, dans notre vie pratique, nous devons passer par la mort. Attention, je ne parle pas de la mort physique. La mort a nos priorités. Et quand il est ressuscité, c'est pour nous dire, vous allez avoir une nouvelle vie aussi. Et souvent, Souvent, on a tendance à réduire la communion avec le Seigneur sur la mort et la résurrection. C'est pour ça que le titre, c'est le troisième chapitre aujourd'hui, en Christ. La première fois, c'était en Christ, en conformité à sa mort. Si Christ est mort pour nous, nous devons rentrer dans cette mort avec lui. Deuxième chapitre, c'était en conformité à sa résurrection. Que le Seigneur est ressuscité, nous a ressuscité avec lui, en nous accordant une nouvelle vie par l'Esprit Saint. Mais on oublie un troisième aspect. C'est que si nous sommes unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, nous sommes unis aussi dans sa ascension et sa gloire. C'est le troisième aspect. Jésus est venu sur terre, il a accepté de mourir sur une croix, ressuscité, il est monté au ciel et il règne. Et bien c'est les trois démarches, les trois procédés, les trois principes que chaque chrétien ici, nous, chaque chrétien, doit passer. C'est obligatoire. Et nous allons lire Éphésiens chapitre, d'abord un premier passage dans Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 22. Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 22. C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église à Éphèse. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Quelle communion fraternelle, voyez ? L'apôtre Paul qui prie aussi au Dieu pour ses frères et sœurs, pour les églises. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par le vertu de sa force? Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle à présent, mais encore dans les siècles à venir, y compris le nôtre. Le deuxième passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est pas par l'intelligence, je ne sais pas quoi. Par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà deux passages parmi d'autres. Le premier passage nous dit que le Seigneur, quand il a accompli son œuvre, il est mort à la croix, ressuscité, monté au ciel, assis à la droite du Père. Là, c'est un constat. On peut glorifier, on peut s'enthousiasmer, on est en train de s'exclamer devant ça. Mais l'apôtre Paul va plus loin dans le deuxième passage. Il dit non seulement il a fait ça, on regarde et on applaudit, super ce que tu as, mais il nous a fait pour nous aussi la même chose. C'est-à-dire, quand il est monté au ciel, il nous a monté avec lui. Quand il s'est assis à la droite du Père, il nous a fait asseoir avec lui. Quand il est en train de régner, il nous fait régner avec lui. À condition. L'apôtre Paul nous dit, il faut qu'il ait une... Il prie pour les chrétiens pour qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation. Le mot révélation, on l'oublie. C'est que nous acceptons de recevoir le Seigneur dans son cœur et il nous laisse nous révéler cette réalité-là. D'un seul coup, nous nous retrouvons au ciel, alors qu'on est sur terre. Ça rend fou. Et pourtant, c'est la réalité, la bonne nouvelle du Seigneur. On met beaucoup l'accent sur la mort de Jésus, sur la résurrection. Et c'est très bien, parce que c'est un passage obligatoire, nous en avons parlé. Un chrétien, quand il suit le Seigneur, il doit accepter de se dépouiller. Attention, pas de lui-même se dépouiller, parce que souvent, quand je dis se dépouiller, d'un seul coup, il faut que je fasse l'effort pour me dépouiller, etc. Non, pas du tout. Ça reste l'œuvre des hommes si on le fait, ça. Dès qu'on reçoit le Seigneur dans son cœur, dès qu'on reçoit le Saint-Esprit au fond de nous, et bien l'Esprit-Saint, il nous ramène à la croix. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire, à travers les épreuves, il va nous transformer. Il va nous passer par tellement d'épreuves, pas dans le sens de nous briser, encore une fois, parce que ça, c'est la vision humaine et les visions du diable, ça. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'on est en une épreuve, il dit, vous voyez, où est-ce qu'il est Dieu? Vous vous rendez compte? Il nous pousse à la rébellion. Il nous pousse à la division, on a dit tout à l'heure. Mais Dieu, quand on passe par l'épreuve, Dieu regarde au-delà de l'épreuve, le Seigneur. C'est-à-dire, il utilise l'épreuve comme un moyen de notre sanctification. C'est-à-dire, au lieu de s'arrêter dans l'épreuve, Dieu nous appelle à regarder au-delà. C'est cela, en quelque sorte, porter sa croix, mourir. Après cette épreuve, automatiquement, le Seigneur nous apprend et on vit une résurrection. C'est-à-dire une transformation intérieure, une métamorphose que Dieu seul peut faire. Et on est tellement étonné, souvent c'est les autres qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui a changé en vous. On le regarde, on ne le remarque souvent même pas. Oui, la résurrection, Dieu règne en nous. Mais en même temps, quand on réalise cette mort, cette résurrection, le voile de notre cœur se déchire et d'un seul coup, il nous fait rentrer dans une dimension spirituelle telle qu'il nous fait découvrir quelques grains, quelques petites réalités, comme ce premier martyr, rappelez-vous, le premier martyr des chrétiens, celui qui s'est fait lapider. Comment rappelez-vous son prénom, son nom? Étienne. Qu'est-ce qu'il disait? Pendant qu'on le lapidait, pendant qu'on est en train de le tuer, il disait, je voyais le ciel ouvert et les anges qui montaient au ciel. Vous vous rendez compte? Dans l'épreuve, il voyait quelque chose qui nous dépasse. Ce n'est pas humain, ça. Dieu seul peut le faire en nous. Quand le Seigneur Jésus est monté au ciel, il fut reçu dans la gloire. Oui. Son ascension avait un caractère représentatif pour nous. Exactement au même titre que sa mort et sa résurrection. C'est comme représentant de ses nombreux fils de Dieu que Dieu voulait conduire à la gloire. Pour arriver à l'ascension, il faut passer par la mort et la résurrection. C'est pas parce que je dis que je suis chrétien aujourd'hui que ça y est, je serai au ciel. C'est malheureux de le dire. Ben, je le dis autant pour vous que pour moi. C'est pas parce que je suis chrétien, ça y est, je vais au ciel. Non, la Bible nous dit, c'est celui qui porte sa croix, c'est celui qui prend le Seigneur comme le chemin, la vérité et la vie, c'est celui qui suit le même chemin que le Seigneur, c'est celui que Christ transforme pour le préparer pour le ciel, c'est celui-là et celle-là qui ira au ciel. La facilité de dire parce que je vais à l'église le dimanche, ça y est, je vais au ciel, même les enfants ne le croient plus. Vous voyez? S'il suffit d'aller à l'église le dimanche, dire voilà, maintenant je vais aller au ciel, ben, je vous annonce une mauvaise nouvelle, nous n'y serons pas. Parce que Jésus lui-même, il a dit, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, oui, appelés. Dieu appelle, je suis chrétien, j'accepte. Je vais à l'église tous les dimanches, voilà, super. Et quand on me pose la question, ah, je suis chrétien. Comment, voilà. Et en plus, je le dis quand tout va bien, mais quand ça va mal, je ne le dis pas. C'est dès que je le dis, ah, ça y est, moi, je vais aller au ciel. Mais il va leur dire, mais dans votre vie, est-ce que Christ règne dans votre vie? Ah. Est-ce que vous vivez votre chrétienne d'une manière spirituelle? Ah. Est-ce que dans votre vie, vous êtes repenti? Est-ce que vous avez prié le Seigneur pour la repentance, la confession des péchés, etc. et dire, Seigneur, je comprends pourquoi tu es mort pour moi. Non. Ah. Et vous voulez aller au ciel? Mais c'est un blasphème envers Dieu. Dieu est saint. Dieu est pur. Comment il peut accepter cela? Je le dis autant pour vous que pour moi. Si nous recevons le Seigneur, nous passons par la mort et la résurrection toute notre vie qui nous prépare pour l'ascension finale. L'ascension finale, il n'y a plus de retour. C'est-à-dire que nous avons quitté ce corps. Nous allons rejoindre le Seigneur. Là, il n'y a plus de retour. Il n'y a plus, ah, je vais réfléchir, ah, peut-être il y a un coup de piston dans le ciel. Alors là, ça ne marche plus. Là. Chacun pour soi. Et le Seigneur, il connaît les siens. Et les siens, c'est qui? C'est ceux qu'il a préparés sur terre avant. C'est-à-dire, il a commencé l'éternité en eux avant de continuer l'éternité plus tard. C'est ça, l'ascension et la gloire. Souvent, j'entends parler des dire « Oh, de toute façon, regardez, avec le Seigneur, il y avait un brigand, non ?» Oui, c'est souvent, j'entends ça. Le brigand, là, qui est sur la croix, bah, lui, d'abord, un, il n'est pas baptisé. Alors, le baptême, en plus, tout le mal qu'il a fait dans la vie, et la dernière seconde, lui a dit « bah, toi, tu seras avec moi dans le paradis. » Souvent, on entend ça. On oublie une chose. Ce brigand a-t-il entendu la parole de Dieu avant? Non. Et certainement non. Ça, c'est arrivé au dernier moment, à un instant T, où il s'est repenti pendant sa souffrance sur la croix, où d'un seul coup, il a réalisé que lui, il méritait d'être jugé, et le Seigneur, il l'a reconnu comme le Fils de Dieu, il ne méritait pas ça. Il a confessé, Dieu lui dit « je tourne ». Mais ce n'est pas une règle pour tout le monde. Dire consciemment, parce que le fait de dire cela, dire qu'au dernier moment, peut-être je confesserai et le Seigneur me sauvera, c'est que consciemment, je reconnais que je connais la bonne nouvelle, mais je la refuse maintenant. J'attends. Mais c'est encore pire. C'est-à-dire, je suis conscient de la bonne nouvelle, je suis conscient de ce qu'il a fait le Seigneur pour moi, je suis conscient de Dieu, ce qu'il a fait pour moi, et consciemment, je refuse aujourd'hui parce que je veux profiter de la vie, et à la fin, quand j'arrive à ma mort, quelques secondes avant, je vais prier, je vais dire « Seigneur, pardonne-moi, je viens vers toi. » On prend Dieu pour qui? C'est terrible quand même de dire ça, c'est terrible. Et souvent j'entends ça. Chez les jeunes, à l'IUT, ils me disent ça. C'est terrible. Ça montre à quel point que la parole est entendue. Mais le cœur est endurci. Alors, ils ne la reçoivent pas. Le Seigneur le dit dans Apocalypse. « Voilà, je me tiens devant la porte. » Je frappe. Vous savez, depuis notre naissance, il frappe. Je frappe à la porte. Si vous entendez ma voix, et ça c'est notre liberté, ouvrez la porte. Et je viendrai habiter chez vous, et vous n'aurez plus rien à faire, parce que même le manger, je l'emmène avec moi, et je mange avec vous. Vous comprenez ça? Et ça, il l'a fait avec moi depuis des années. C'est seulement à l'âge de 19 ans, 20 ans, que j'ai commencé à comprendre qu'il faut qu'il rentre dans ma vie. Et il continue à frapper à la porte. Nous voulons vivre l'ascension et la gloire, régner avec le Seigneur. Ouvrons notre cœur. Le laisser nous transformer. À travers son œuvre de la croix, il va nous mener à la résurrection. Et par là, il nous prépare pour l'ascension finale. On peut prendre plein d'exemples dans la Bible. Plein. Et si j'en prends un, par exemple, Abraham. Oui, Abraham. Abraham l'a appelé, Dieu l'a appelé. Il lui a dit, quitte cette terre et va dans la terre, dans une terre promise. Ce qu'il a dit, voilà, je te prépare. C'est une promesse qu'il lui a donnée. Abraham a tout quitté et il est parti. Il ne savait même pas où aller. Oui. Ça veut dire que le Seigneur a donné cette promesse à Abraham. Et si cette promesse qui a donné sens à la vie d'Abraham. Si le Seigneur touche notre cœur et nous dit, vous allez avoir l'éternité, ça doit véhiculer toute notre vie. Mais pendant ce chemin, Abraham a appris. Il a appris. Et quand il a découvert que cette promesse, ça concernait la terre promise, il a dit, ah ben moi je veux plus loin. Ça, ce n'est que l'image visible de la promesse de Dieu. Moi, je veux la terre céleste. Comprenez? C'est que Dieu, quand il nous appelle à la gloire, il ne nous appelle pas pour des biens de ce monde, il nous appelle à une réalité qui nous dépasse, une réalité céleste. Ce qu'il a vécu, le Seigneur, ce n'est pas pour l'histoire. Et souvent, on a tendance à faire de l'histoire, et je fais bien de l'histoire, beaucoup d'histoire même. Oui. Donc, je peux même relater l'histoire de ce peuple juif, etc., pour enrichir notre tête. On passe notre temps à lire des livres et dire que il y a plus de 2000 ans, il y a eu un certain Jésus, il y en a qui traitent même de syndicaliste, le premier syndicaliste de l'histoire, je l'ai lu, par des historiens sérieux. Hein. Il disait que le premier syndicaliste de l'histoire, c'est Jésus parce qu'il défendait les pauvres, etc. Ils n'ont rien compris. Il a vécu sur terre durant 33 ans à peu près, étant Dieu sur terre, puisque comme l'être humain est incapable d'aller à la rencontre de Dieu, et vous êtes d'accord avec moi, on peut chercher Dieu, on ne le trouvera pas. On peut le chercher. Impossible de le trouver. De nous-mêmes, on ne peut pas le trouver. Comment? On peut réfléchir, mais Dieu, ce n'est pas dans nos pensées. On peut faire de la science, tout ce que vous voulez, ce n'est pas ça qui démontre que Dieu existe. J'aime bien cette parole qui dit que Dieu ne s'explique pas, Dieu se rencontre. Et bien, de notre incapacité de rencontrer Dieu, ben, il a dit, ben, la meilleure façon pour qu'il me connaisse, c'est que moi, je vais vers eux. Oui? Nous ne pouvons pas trouver Dieu, et Dieu, il est venu à notre rencontre. C'est formidable. Et pour venir à notre rencontre, il a fallu qu'il souffre. Imaginez que l'infinité devient limitée. Vous vous rendez compte, le premier prix que Dieu a payé, c'est qu'il a quitté son éternité pour se contenir dans un être humain qui est venu au milieu de nous. Déjà, c'est une souffrance, déjà ça. Et en même temps, en venant nous voir, il dit, je n'ai pas créé cette création pour qu'il croie à autre chose qu'à moi. Pour la racheter, il a dit, il y a deux solutions. Soit cette humanité, je la punis. Hein? Vous vous rappelez de l'histoire d'Abraham, Sodome et Gomorrhe pour Lot, hein? Il lui dit, si vous me trouvez quelqu'un de saint, de pur à Sodome et Gomorrhe, je sauverai la ville. Je ne sais pas le nombre par combien, 50 je crois, quelque chose comme ça. Il lui dit, d'accord, s'il y en a 50, je sauve la ville. D'un coup, Abraham dit, et s'il y en a, je caricature, et s'il n'y a que 30? D'accord, allons-y. Et s'il n'y en a que 10? D'accord. En fait, il pourrait aller plus loin, il n'y en a aucun. Dans l'humanité, il n'y a rien de bien qui peut être, qui lui permet d'être sauvé. Alors la seule solution que Dieu a trouvée, et c'est terrible, c'est qu'au lieu de châtier l'humanité, il a dit, mais je vais prendre ça sur moi. Et bien, je vais me payer moi-même. Vous vous rendez compte? Mais on ne se rend même pas compte de ce qui était fait. C'était, parce qu'on prend souvent l'exemple, je discutais avec mon frère, une fois, il me dit, mais j'aime bien l'image de ce gendarme à Carcassonne, vous vous rappelez, qui s'est sacrifié, et cette caissière, en fait, en remplaçant la place des caissières auprès du terroriste. Oui. Il me dit, c'est un bon message de la croix. Mais à la seule différence. À la seule différence. C'est que ce gendarme, quand il est allé dans le magasin, dire au terroriste, laissez la caissière, la dame, libre et prenez-moi à sa place. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Il avait l'espoir et dit, en faisant cela, je vais l'arrêter. La différence avec Jésus, en montant sur la croix, il savait qu'il allait mourir. Vous voyez la différence? Ça veut dire que le sacrifice est encore plus profond. Il a accepté de monter sur une croix en sachant qu'il allait mourir. Et c'est pourquoi le diable n'arrêtait plus de lui dire, il m'a descendu à croix. Vous voyez? Ou d'autres religions qui mettent de côté la réalité de la mort de Jésus. C'est la meilleure façon pour que Dieu accepte l'humanité et lui pardonne. C'est la bonne nouvelle. Dieu s'est sacrifié lui-même en envoyant son fils sur la croix. Et quand il était sur la croix, vous savez, la Bible nous dit, Jésus, quand il était sur la croix, c'est pas seulement quelqu'un qui fait quelque chose pour nous. Ça, je le croyais au début de ma conversion. Mais plus que ça, quand il est monté sur la croix, il a porté en lui l'humanité, c'est-à-dire il m'a porté en lui. C'est-à-dire, il a pris ma nature sur la croix et il l'a fait mourir avec lui. En fait, il a payé le prix. Il a pris ma nature, il l'a mise en lui, il a payé le prix, il est mort. C'est-à-dire, il a briser ma nature. Mais il ne m'a pas laissé dans la mort. Parce que je n'existerai pas aujourd'hui. Mais en faisant cela, Dieu l'a ressuscité. Ah, c'est une nouvelle nature qui ressuscite. Christ en nous, c'est ce que la Bible appelle la nouvelle créature, la nouvelle création. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a pris cette réalité-là, cet être transformé, c'est-à-dire le vôtre en tant que chrétien, le mien, et il l'a monté avec lui au ciel. Nous sommes avec Christ au ciel, en tant que chrétien. Il irait plus loin. Il l'a pris, il l'a mis à la droite de Dieu. Il disait au Père, maintenant je règne avec eux. C'est cela, l'ascension et la gloire. Et cela, nous ne le vivons pas après la mort, quand on aura quitté ce corps. Pas du tout. Ici, bas, sur terre, en ce moment même. Je vous ai lu le passage tout à l'heure. Nous sommes déjà morts, ressuscités, assis à la droite du Père, etc. Spirituellement, nous sommes déjà dans le ciel. Mais cette réalité spirituelle qui est déjà accomplie, c'est une réalité. Dieu va la faire d'une manière pratique dans nos vies de tous les jours. Dès demain matin, il veut que cette réalité soit dans notre vie. C'est-à-dire que la gloire de Dieu se manifeste à travers nous. C'est cela, être chrétien. Vous voyez, le chemin n'est pas comme on dit, ah, je suis converti parce que je chante des chants, ça y est, je suis au ciel. Non, pas du tout. Dieu veut voir son œuvre, sa gloire, à travers les enfants de Dieu ici-bas, pendant que nous sommes chrétiens, pour nous préparer pour l'éternité, pour la gloire future. Et Dieu permet les épreuves. Dans les crises les plus douloureuses, qu'on peut vivre. Et les crises et les douleurs et les épreuves sont incomparables. Chacun vit sa crise. Et chacun a une douleur. On ne peut pas dire que toutes les douleurs sont pareilles. Il y a une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui nous accompagne. Et qui n'a d'autre cause que l'harmonie de notre volonté. Avec la volonté de Dieu. Dans la Bible, ce mot « paix » pourrait dans presque tous les cas être avantageusement remplacé par le mot « harmonie ». Quand on est dans l'épreuve, et à travers l'épreuve, la paix est en nous, c'est une harmonie divine. Personne ne peut l'expliquer. Et pourtant, la personne qui le vit, elle traverse l'épreuve dans une paix inexplicable. De même, la capacité spirituelle, c'est un autre élément de la gloire céleste. C'est ce qui est en nous, passe outre aux limitations du temps et de l'espace. Nous vivons cette harmonie, cette paix, même si on est dans la fournaise et dans l'épreuve. Parce que cette harmonie nous dit, il y a l'éternité. Cette gloire ne peut être connue qu'en esprit. On ne peut pas la fabriquer, cette gloire. Seulement en esprit, on peut connaître cette gloire. Les mots ne sauraient la décrire. Souvenons-nous seulement qu'il est écrit de nous que nous sommes appelés à sa gloire éternelle. Que nous obtenons le salut avec la gloire éternelle. Et que nos légères afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire. Je ne fais que lire et paraphraser 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17. Ainsi comme nous avons été crucifiés avec lui, ensevelis avec lui, rendus à la vie avec lui, nous sommes de même enlevés et glorifiés avec lui. Mes frères et sœurs, n'oublions pas cette réalité aussi. Que Dieu nous donne de répondre « Amen » à son désir, de nous faire vivre ici-bas, je dis bien ici-bas, c'est-à-dire tous les jours, ici-bas, notre position céleste avec et en Christ d'une manière progressive. Quoi qu'il en coûte, c'est un mot qu'on utilise, quoi qu'il en coûte, et bien le Seigneur, quoi qu'il en coûte, il veut nous faire vivre cette réalité, cette gloire ici-bas. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut où le Christ est en ce moment même. Colossiens chapitre 3 verset 1. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Colossiens chapitre 3 verset 2. Si nous voulons paraître avec Christ dans la gloire, il faut que déjà maintenant notre vie soit cachée avec Christ. Et nous sommes appelés à découvrir cette réalité qui est cachée en Christ, ou plutôt laisser Christ nous faire découvrir notre réalité en lui, et que nous-mêmes, nous soyons morts aux choses de la terre. Colossiens chapitre 3, versets 2 et 3. Conclusion, en Christ veut dire en conformité à sa mort, à sa résurrection, à son ascension et à sa gloire. Amen.